Alors, si vous prenez le train en marche, sachez qu'on est à la session 4 d'une série qui comporte 12 sessions. Et on a choisi de faire ça pour deux raisons, donc double objectif. Le premier, c'est de donner à chaque membre de l'Église une vue d'ensemble de la Bible. Et donc, on prend des textes clés et on regarde ces textes clés. Et ensuite, deuxième élément, c'est qu'on s'appuie sur un manuel qui est très facile d'utilisation. Il n'y a que des textes de la Bible et des questions. Il n'y a pas de réponse. Donc là, c'est pour vous aider que je prends ce manuel et que je réponds à chaque question. Alors, c'est plus développé, forcément, parce que c'est dans une prédication. Mais l'idée, c'est de vous rassurer pour que vous puissiez, vous, à votre tour, prendre ce manuel et aller voir une personne de votre entourage qui serait intéressée pour connaître la Bible. Le but, c'est pas de convaincre les gens, mais c'est de leur présenter ce que la Bible dit. Comme ça, ça vous décharge et il n'y a pas de pression pour personne. Le but, c'est vraiment de présenter qui est Dieu au travers de la Bible et quel est le message de la Bible. J'ai utilisé ce manuel pendant plus de 15 ans et je peux vous assurer que c'est un outil qui fonctionne. Bien sûr, ça dépend des gens qui sont en face de nous. J'ai commencé beaucoup de parcours découverte de la Bible et j'en ai arrêté plus que j'en ai commencé. Mais, des fois, on n'arrive pas au bout, mais au moins, on a fait cet exercice-là. Et je vous encourage vraiment à le faire parce que quand on aboutit au bout du processus, eh bien, il y a des gens qui sont là dans l'assemblée, vous voyez, et ça fait des disciples. Et c'est une des missions de notre Église, faire des disciples qui se reproduisent, qui font d'autres disciples. Alors, comme on est à la session 4, je fais un petit résumé, on ne va pas reprendre toutes les autres éléments, mais on a vu dans la session 0, la Bible est-elle fiable ? Vous pourrez aller sur Internet, regarder le message de John, qui est celui-là. Ensuite, on a vu la création, l'indépendance, ensuite le sacrifice avec Abraham, puis Caïn et Abel. Et aujourd'hui, on a le chapitre, enfin la session 4, qui s'appelle « Incapacité ». Donc je vous résume ici le résumé de la session numéro 3, juste avant, pour qu'on ne perde pas trop le fil. Dieu n'abandonne pas l'homme pour autant, il a déjà promis que le mal serait vaincu, et il fait d'autres promesses à un homme, elles toucheront toute l'humanité. Et donc on va attaquer directement avec les questions, parce que c'est quand même le but, c'est de répondre à ces questions. Et donc on prend notre manuel, on va répondre aux questions, mais il faut d'abord avoir lu le texte. Et donc, je vous invite à le suivre ici, soit dans vos Bibles, c'est la version second 21, soit vous allez écouter, ici, le texte va s'afficher. Oui, ça c'est l'objectif du jour, découvrir que la condition morale de l'homme face à Dieu nécessite une intervention de Dieu lui-même pour nous porter secours de la souffrance dans le monde.
Prononça toutes ces paroles.
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi, En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne.
Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance.
Voilà un texte. Vous avez vu, c'est solennel, hein ? Vous avez entendu cette petite musique d'orgue qui était derrière, qui nous donne cette l'ambiance dans laquelle on était ici. Et on aurait, c'est super intéressant de lire le chapitre 19. Je vous invite à le faire à la maison parce qu'on ne s'approchait pas de Dieu. Et quand Dieu donne cette parole, ça se fait dans certaines circonstances. Et c'est d'autant plus solennel quand on a lu le chapitre 19, mais on se prête à l'exercice, on se limite ici donc au chapitre 20, on nous donne ce texte. Dans le manuel, vous allez voir que dans cette session-là, il y a 3 textes en tout. Mais pour que, et on s'est arrangé pour qu'on arrive à la naissance de Jésus, puisqu'on parle de la naissance de Jésus dans le manuel, mais on s'est arrangé pour que ça arrive le jour où on sera à l'IBG, où on va parler de Jésus. Donc on fera aussi la session le dimanche, mais ça va parler bien sûr de la naissance de Jésus. Donc cette fois-ci, vous aurez un bout de cette session. Dimanche prochain, comme c'est l'Église persécutée, on a choisi de traiter la deuxième partie, ça sera Ésaïe 53, ça va être très fort. Et donc là, ce matin, on fait Exode 20. Et donc mémorisez cette référence, parce que si on vous dit, mais c'est où les 10 commandements ? Exode 20, facile, 10, 20, vous voyez, Exode 20, c'est la référence qu'il faut retenir. Il y a une petite remarque dans le manuel, si je vais vous la lire, parce que ça a lieu quand même quelques siècles plus tard, après Abraham, donc la dernière histoire qu'on a lue. Quelques siècles plus tard, Dieu établit à travers Moïse une alliance avec les descendants d'Abraham à la sortie d'Égypte. Lors de cet événement, Moïse transmet notamment les 10 commandements que l'on trouve dans le livre d'Exode. Donc c'est important de préciser qu'il s'est passé 4 siècles entre la session 3 et la session 4. Donc, de Moïse à Abraham, il y a eu une longue période. Et là, les Israélites ont souffert. Ils étaient dans la servitude. Et on va l'apprendre tout simplement en lisant le verset 2. Et c'est la première question. Comment Dieu se présente-t-il et quelles sont ses caractéristiques ? Et déjà, la première chose, il se présente comme l'Éternel. L'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Donc vous voyez, là on a le petit résumé de ce qui s'est passé juste avant. Ils étaient en esclavage sous la servitude de Pharaon et c'était très dur au point qu'ils ont crié à Dieu, que Dieu a entendu leur cri et qu'il est venu les délivrer, comment ? Au travers de Moïse. Donc il est allé chercher Moïse en tant qu'Égyptien et juif, parce qu'il avait été abandonné par ses parents, parce que c'était la mort qui était assurée pour les juifs de cette époque-là, en tout cas. Le pharaon demandait à ce que les bébés mâles soient tués. Et donc, du coup, ce bébé, il va être déposé dans une rivière, sur le Nil. Il va être récupéré par la fille du pharaon, qui va l'élever dans la cour de Pharaon. Et donc, on voit cette préparation de Dieu qui utilise cet événement-là, et il va aller chercher Moïse au milieu de l'Égypte, et donc pour sauver son peuple. Et donc là, on a une présentation de Dieu. Si je vous essayez de lire là, ici, vous voyez, ces lettres. Essayez de les lire. Dites-moi, qu'est-ce que vous lisez en français ? Allez-y. En fait, les témoins de Jéhovah ont fait un mix parce que ça s'est traduit ailleurs pour pas prononcer le nom de Dieu et on disait Adonai. Regardez les voyelles. A-O-A-D-O-N-A-I. A-O-A. Et ils les ont interposés. Ça a donné Jéhovah. Jéhovah, c'est pour ça. Alors, honnêtement, la plupart des linguistes aujourd'hui disent que c'est pas Jéhovah ou Jéhovah, mais Yahvé ou Yahweh. Vous allez, sur le H se prononce R en hébreu. D'accord ? Donc, ça fait Yahweh. Donc, je pense que c'est une prononciation qui est juste. Franchement, c'est pas la fin du monde si on dit Jéhovah. Mais, autant le faire correctement. En fait, il n'y a que des consonnes en hébreu et il faut mettre des petits accents pour qu'il y ait justement la prononciation, pour que ça nous aide. Quand il n'y a que des consonnes, ce n'est pas évident. Et donc, il y avait ces éléments-là qui ont été retrouvés apparemment. Dans l'introduction des 10 commandements, Dieu ne commence pas par une liste d'interdits, vous avez remarqué. Il se présente d'abord comme une personne et il va révéler son identité. Et le mot éternel signifie, et là il faut aller dans d'autres textes pour le dire, mais ça signifie celui qui est. Celui qui est. D'accord ? Donc c'est pas facile de définir ça. Et donc les théologiens disent que c'est un être qui ne dépend de rien pour être, pour exister. Ça signifie qu'il n'a ni commencement, ni fin. Personne n'a créé Dieu. Et donc ça souligne l'auto-existence de Dieu. Dieu existe par lui-même sans cause extérieure. Et ça répond à la question que j'ai souvent entendue, mais qui a créé Dieu ? La Bible, elle te dit personne, parce que Dieu a toujours existé. Donc Dieu est auto-existant. Et c'est ce que la Bible dit. On apprend ici aussi qu'il y a l'éternité. Donc Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il était, qu'il est et qu'il sera toujours. Quand on est éternel, ça veut dire qu'on est aussi immuable. Et ça souligne l'immuabilité de Dieu, c'est-à-dire que dans sa nature, Dieu ne change pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas les mêmes choses, hein, mais Dieu est le même aujourd'hui, enfin, avant, aujourd'hui, éternellement. Donc sa nature, son identité ne change pas. Ça ne veut pas dire que Dieu fait toujours la même chose. Et ça, je le souligne, parce que souvent on dit « Oui, mais nous, on peut faire les mêmes miracles que Jésus. » Ah bon ? Oui, et on s'appuie sur ce texte en hébreu qui dit « Dieu est le même. » Alors si Dieu est le même, on peut faire les mêmes choses. Eh ben non. C'est pas parce que Dieu est le même qu'il fait toujours la même chose. Quand on sera au ciel, Dieu sera toujours le même et il fera des choses différentes et nous ferons des choses différentes. Au début de la création, Dieu faisait des choses qu'il ne fait plus aujourd'hui et pourtant c'est le même. Vous voyez ? Prenez le cas d'un papa avec ses enfants. Au début, il leur interdit ou il les cajole, il lui donne de la nourriture pour vraiment le faire grandir. Puis plus il va grandir, il va commencer à lui donner un cadre. Ça, tu touches pas la porte du four, c'est dangereux. Tu ne prends pas un couteau de cuisine. Tu n'essuies pas la vaisselle parce que tu es trop petit, tu pourrais te blesser. Et puis, quelques années plus tard, c'est toujours le même père qui va dire à ses enfants, tu vas prendre un torchon de cuisine pour essuyer mon verre. Parce que nous changeons, mais Dieu, lui, reste le même. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment prendre en considération ça. Dieu est unique. Et ça souligne l'unicité de Dieu. Yahweh est le seul être qui est comme ça dans l'univers. Il n'y en a pas d'autre. Dieu est unique. Ça signifie qu'on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où on essaye d'imager Dieu, on le rabaisse. À partir du moment où on prend quelque chose qui est éternel, qui prend toute la surface de l'univers, parce que Dieu est partout, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, quand on regarde la personne de Dieu, est-ce qu'on est capable de représenter Dieu honnêtement, en faisant un dessin, en faisant une sculpture ou quoi que ce soit? Eh bien, si on le fait, ça rabaisse Dieu au niveau des humains, quelque part. À notre image, mais absolument pas à l'image du Créateur, qui lui est esprit. Dieu est esprit, et on ne peut pas le voir, d'accord? Deuxième élément, alors là j'ai rajouté deux trois trucs quand même, hein, c'était pas tout dans le texte. Quel est le deuxième élément que vous souligneriez quand on a lu ensemble ces 18 premiers versets? Qu'est-ce que vous apprenez encore sur Dieu? Donc là j'ai parlé de, il se présente comme Dieu est l'Éternel, mais qu'est-ce que vous verriez d'autre? Vous les maris, prenez exemple sur Dieu. Pourquoi je dis ça? Dieu, il est jaloux. Ah, mais attention, hein. Attention, c'est pas la même jalousie que nous les humains, mais il y a une saine jalousie. Hein, regardez le verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence avec Dieu. Je ne veux pas que tu mettes un autre Dieu avec un petit « d », vous avez vu, devant moi. Au verset 5, « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel Dieu, je suis, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » En fait, on est jaloux quand on aime l'autre passionnément. On ne tolère pas de rivalité, c'est normal. Donc il y a une saine jalousie. Si un mari n'est pas jaloux quand sa femme commence à discuter avec un autre homme de manière trop intime, il y a un problème. Il y a un vrai problème. En fait, on peut comparer Dieu ici, le Dieu de la Bible, donc à un mari passionné et fidèle qui exige la même chose de son époux. D'accord ? Ça va dans l'autre sens. C'est que si moi je suis un Dieu jaloux, j'exige que toi aussi tu sois fidèle. Et c'est pour ça qu'il donne des clauses. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi il fait ça? Ben parce qu'à l'époque, déjà, il y avait de l'idolâtrie qui avait lieu. Dans toutes les cultures, on observe ça. Toutes les cultures, toute la plupart des religions dans le monde, qu'elles soient monothéistes ou pas, eh bien, on adore des choses matérielles. On se prosterne devant elles. Et donc, on doit à tout prix éviter de comparer Dieu à quelque chose d'autre, parce que ça va le rabaisser. Le cinquième commandement, ici, que vous voyez, il s'oppose à des pratiques que les gens de l'époque, faisaient. Et ils se prosternaient devant des statues et plaçaient surtout leur confiance dans des bouts de bois, dans du métal ou dans de la pierre qu'ils avaient eux-mêmes taillée, façonnée. Eh bien, pour Dieu, c'est une pratique abominable parce qu'elle rabaisse le Créateur de l'univers à une chose matérielle qui est inerte et sans vie. Et Dieu et les prophètes se moquent à plusieurs reprises des idoles en disant « Oui, eh ben, essaye de la faire parler, parle-lui et tu verras si elle te répond. » Et en fait, ils se moquent des idoles, pas des gens, hein, mais des idoles. Et ça va loin, des fois. Rappelez-vous Élie avec les prophètes de Baal, qui utilise l'humour sarcastique. « Ah bon? Mais il est où votre Dieu? Il ne serait pas allé aux toilettes des fois ?» C'est ça, c'est ce qui se passe. Alors, c'est tellement humiliant d'être comparé à une figurine lorsqu'on remplit tout l'univers. Je vais ici prendre une image, parce que ça peut vous parler. Alors, ce n'est pas une image, c'est une figurine. Est-ce que vous reconnaissez le personnage ici? C'est une figurine de Playmobil. OK? Figurez-vous que c'est le Playmobil le plus vendu chez Playmobil dans le monde. 1,17 million de ventes. Sur eBay, on pouvait trouver un Playmobil, donc un petit bout de plastique, hein, qui coûte honnêtement à la fabrication à peine 50 centimes. Eh bien, il se vendait à plus de 1 000 euros sur eBay. Et des gens les achetaient. Alors nous, on n'est absolument pas concernés par ça. Hein ? Les gens occidentaux, par les idoles, on ne se prosterne pas devant du métal. Mais qu'est-ce que font les gens ici quand ils payent 1 000 euros pour avoir une petite figurine qui en coûte que quelques-unes ? Alors si vous en voulez une, moi je la fais moins cher que 1 000 euros. Hein ?
Si vous voulez, hein, je peux l'obtenir. J'ai regardé, c'est 14,50€, je crois, sur Amazon. Donc, c'est pour vous dire la spéculation. Pourquoi on spécule, honnêtement, quand on donne autant de valeur à un petit bout de plastique? Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire la même chose que faisaient les gens au temps de Moïse? On lui donne de la valeur, hein? Et quelque part, peut-être qu'on ne s'agenouille pas devant Luther, hein, parce que c'est Luther dont il s'agit. Ça a été créé en 2017, justement, pour fêter le bicentenaire de la Révolution. Alors peut-être que c'est même des protestants. Et vous savez, les trois pays qui achètent le plus cette figurine, c'est tous ceux qui viennent au Calvin Tour, en fait. Les Américains, les Allemands et les Suisses. Eh oui, mes amis, vous faites partie, nous faisons partie de ces gens qui, quelque part, vont plébisciter ce genre de choses. Et donc, on n'est pas mieux que les contemporains de Moïse. Dieu, comparer une figurine de Luther avec Luther et l'œuvre de Luther, les amis, c'est vraiment rabaisser. Parce que là, quand on achète des Playmobil qu'on paye 1 000 €, on ne parle absolument pas de ce qu'a fait Luther. Vous voyez, on n'est pas en train de regarder l'œuvre de Luther, qui est une œuvre extraordinaire. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce que grâce à lui, Calvin s'est converti. Calvin, ensuite, a développé la réforme dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, nous, les anabaptistes, on se retrouve ensemble, mais on est les héritiers de ces gens-là. Donc vous voyez, si on se limite à ça, parce que la plupart des gens, je suis quasi certain que la plupart des gens qui ont acheté cette figurine, alors peut-être que des chrétiens évangéliques l'ont acheté juste pour le fun, pour dire tiens j'en ai une, mais j'espère surtout pas qu'ils l'ont payé 1 000 €. Vous voyez ? Parce que là ils auraient absolument rien compris au message de Dieu. Et donc cette figurine-là, elle ne représente absolument pas Luther. Vous voyez ? On est d'accord là-dessus ? Si vous me comparez, vous essayez de me faire un petit modèle de moi. Tiens, il y a Franck avec nous dans la voiture. Ben non. Franck, il n'est pas avec toi dans la voiture. Donc là, Dieu l'interdit, ce genre de choses. Quelle est une autre des caractéristiques? Vous avez remarqué, à chaque fois, il y a cette expression qui revient. Ton Dieu, je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu. Dieu n'est pas seulement un être impersonnel, mais il est personnel. Vous voyez ? Ton Dieu. Il a établi une relation personnelle avec son peuple. Il a fait une sorte, c'est même pas une sorte, il a fait une alliance avec l'homme. Et en particulier avec Abraham. Il s'est lié d'amitié avec Abraham. À au moins 2 reprises dans la Bible, on voit que Abraham était l'ami de Dieu. Donc vous voyez, il y a une relation qui se crée entre l'homme et Dieu. Dieu a fait un pacte, donc une alliance. Il s'est engagé vis-à-vis de lui, à lui donner une descendance et à faire de lui une grande nation. Et ici, Dieu rappelle le lien qu'il a avec le peuple d'Israël. Il est leur Dieu, pas celui des autres peuples, car il ne s'approche pas de lui de la bonne manière, comme Caïn qui avait bricolé une forme de spiritualité que Dieu n'a pas approuvée. Donc ici, c'est ton Dieu parce que tu respectes l'alliance et quelque part le protocole que j'ai déjà mis en place depuis Adam et Ève, en passant par Caïn et Abel. Et puis, ça s'est suivi et donc ça va être bientôt légiféré. Dieu s'est engagé à vivre l'alliance avec ceux qui s'approcheraient de lui comme lui le définit et non comme nous pouvons imaginer nous approcher d'un Dieu saint. Et ça passait par un sacrifice d'un animal innocent et non par une offrande de légumes. Et ça, ça rappelle à la session numéro 3. Un autre élément que l'on trouve ici, c'est que Dieu se présente comme un libérateur. « Je t'ai fait sortir d'Égypte. » Il se présente d'abord comme un libérateur avant de se présenter comme un législateur. Et ça, c'est super important. La justification arrive toujours avant la sanctification. La grâce arrive toujours avant la loi. Retenez ça. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Je t'ai fait sortir, je t'ai libéré de l'esclavage dans lequel tu étais installé. Tu as fait appel à moi, je suis venu et je t'ai libéré. Et maintenant, je vais te donner des règles. Parce que tu n'as plus de pays, tu n'as plus de nation. Et donc, je vais te donner des règles pour que tu puisses survivre au milieu de ces gens-là. D'accord ? Mais tu vas avoir des règles spécifiques à ton peuple. D'accord ? Donc, on va prendre une illustration ici, justement pour comprendre ce principe qui est très important. Imaginez un papa qui sort son enfant d'une maison en feu. Il lui sauve la vie. Il ne va pas commencer par lui donner des règles de vie. Mais d'abord, il va le sauver. Et ensuite, dans la sécurité, il va lui enseigner comment éviter le danger à venir. Mais voyez, quand il y a quelqu'un qui crie, il ne lui donne pas, il le sauve, il arrache des flammes, et ensuite, il va lui donner des règles. Mais ce n'est pas l'inverse qui se passe. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Si vous êtes chrétien évangélique, vous dites, « Ah, mais ce n'est pas la loi qui nous sauve. » Eh bien non, mais est-ce qu'il faut la jeter, cette loi ? Pas si sûr. En fait, la grâce est à mettre en amont. Dieu nous sauve, et ensuite, il nous sanctifie. Justification, sanctification. Mais l'un n'est pas séparé de l'autre. Mais la justification est toujours avant la sanctification. Parce que si on inverse, eh bien c'est là où on tombe dans le légalisme, dans la religiosité. Donc vous voyez, toujours la grâce avant la loi. Et dernier élément, c'est que Dieu est juste et miséricordieux. Et ça, c'est assez évident. Mais si Dieu ne punissait pas les gens qui pêchent, en fait, à quoi serviraient les commandements ? Et à quoi serviraient les avertissements ? Un parent qui dit à son enfant « Attention, hein, tu vas avoir une fessée si tu continues !» et qui ne fait jamais rien, mais l'enfant, il continue. Et donc Dieu n'y est pas comme ça. Il a averti et il y a la punition derrière. Et là, c'est ce qu'il dit, Dieu punit le péché jusqu'à la troisième génération. Mais, regardez bien, il montre sa fidélité jusqu'à la millième génération. Vous voyez, le ratio, là, c'est 1 pour 250. Hein. C'est 250 fois plus généreux, gracieux, que colérique, quelque part. Donc, le caractère de Dieu est un caractère miséricordieux avant tout. Voilà, en gros, les caractéristiques qu'on peut retrouver ici. Alors, vous pourriez donner d'autres détails, mais je pense que c'est l'essentiel. Ok ? On avance ? Donc, il y a une autre question qui est là. Quelles sont ces caractéristiques ? Comment Dieu se présente-t-il ? Attendez, je crois que j'ai oublié de mettre la question. Pourquoi parle-t-il d'esclavage et de quoi l'esclavage en Égypte est-il une image ? Pourquoi Dieu parle-t-il d'esclavage ? C'est la question numéro 2. D'accord ? Alors, la première, c'est que l'esclavage d'Égypte est un fait historique. Là, c'est une fresque qu'on a retrouvée. Et donc, les spécialistes sont identifiés comme des juifs. Et regardez bien, ça vous rappelle quoi, ça, là ? Tout ça ? C'est des briques. Ils fabriquaient des briques pour Israël. Et ils ont le dos courbé, vous voyez ? Donc là, c'est difficile. Là, ils les fabriquent. Tac, ils les avancent. Voyez, et là, on voit un fouet. Ce n'est pas pour faire avancer des bœufs, hein. Il n'y a pas d'animaux là, dans la scène. Donc, c'est vraiment une condition difficile. Et donc, 400 ans auparavant, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc, quand il parle « c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte », il est en train de s'appuyer sur un fait historique. D'accord ? La Bible, ce n'est pas une légende ou un mythe. Ça s'appuie sur des faits qui ont vraiment eu lieu. Deuxième élément, c'est que l'esclavage rappelle la grâce de Dieu. Il rappelle ici la sortie d'Égypte pour rappeler aux Israélites que d'une part, c'est eux qui ont fait appel à Dieu lorsqu'ils souffraient et que c'est sur la compréhension de cette grâce qu'il va leur donner une loi. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il rappelle les faits. Souvenez-vous, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Ah oui, c'est vrai, on était esclaves et tu es venu nous libérer. Oui. Et il y a un autre aspect, et là c'est plus en rapport avec l'image que l'on retrouve dans toute la Bible. Ça, il faudrait lire d'autres textes, mais l'esclavage, c'est aussi une image du péché. Donc l'Égypte, ça représente l'esclavage spirituel, hein, dans lequel on ne peut pas sortir, et il faut que Dieu intervienne pour nous sortir de cet esclavage et nous amener dans la liberté et donner la loi. Vous voyez ? Donc, quelque part, la loi, ce n'est pas quelque chose qui nous prive de notre liberté, mais au contraire. Et donc Dieu précise, attention, l'ordre c'est « Je t'ai pris de ta servitude, je t'extirpe de ça et je te fais vivre dans cette liberté si tu respectes les conditions que je vais te donner. » Donc c'est important de bien saisir ça. Deuxième question, que ressentez-vous à la lecture de ces commandements ? Alors vous qui l'avez lu plusieurs fois, quand vous lisez ce texte, essayez de vous mettre dans les baskets de quelqu'un qui le lit pour la première fois. Est-ce que, naturellement, vous trouvez ça bien, peut-être, mais si vous regardez de près, si vous êtes honnête, est-ce que vous trouvez ça facile à mettre en pratique ? Alors, on pourrait se dire, si on regarde de manière superficielle, ouais, ça va, j'ai jamais commis d'adultère. Ok ? Oh. Vous avez remarqué, là, ce qui est écrit ici ? Relisez Matthieu 5, 21 à 48. Sermon sur la montagne. Jésus va donner une réinterprétation de la loi qui est plus juste, en fait. Parce que là, quand on lit la loi, et vous avez entendu, tu ne voleras point, en fait, quand on dit du mal de quelqu'un, on vole sa réputation. Et on ne lui a pas piqué de l'argent, on a volé sa réputation, ça va plus loin en fait. Et ça, c'est l'esprit de la loi. Et Jésus, lui, il va revenir à l'esprit de la loi. Et au final, on va regarder ces textes et on va dire, mais ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Mais en tout cas, le premier élément qui pourrait ressortir, c'est qu'on est incapable en fait. Si on est vraiment honnête, quand on est face à la loi, on voit qu'on ne la respecte pas. Faut l'avouer, de temps en temps, on se fait choper au radar. Pas tous les jours, hein, parce que quand même, on sait où il se trouve. Mais si on déplace le radar, ah, là, on se fait toper là. Hein, ça c'est, et ouais, c'est arrivé récemment à quelqu'un que je connais très bien. Ben, c'est pas moi, pour une fois. Ils ont déplacé le radar. En fait, lorsque Jésus commente les commandements dans Matthieu 5, il va beaucoup plus loin. Quand il nous dit, ici dans le texte, ne pas tuer, qu'est-ce que Jésus dit par rapport au meurtre ? Voilà. Si tu te mets en colère contre ton frère, tu as déjà commis un meurtre. Donc vous voyez, ça c'est l'état d'esprit de la loi. Donc c'est pas simplement des actes, mais ça, c'est l'intention quelque part. Sur l'adultère, qu'est-ce que dit Jésus ? Souvenez-vous, si tu regardes une femme avec convoitise, hein, avec envie, si tu commences à baver. Hein. Et alors attention, ça va aussi pour les femmes. Hein. Si tu regardes un homme et que tu te mets à baver, hein, parce qu'on n'a pas le monopole là-dessus, eh bien tu commets déjà un adultère. Donc ça va beaucoup plus loin que la pratique. Ah oui, en apparence, personne dans cette salle, peut-être, je ne sais pas, mais a commis une infidélité, un adultère de manière physique. Mais dans sa tête, les amis, oulala, je ne vais pas compter les miennes, hein. L'amour du prochain, quand là on doit aimer son prochain, Jésus il dit, mais oui, mais ton prochain c'est aussi ton ennemi, tu dois être capable d'aimer ton ennemi. Et si on te demande de faire mille, alors il dit, si on te demande de faire une chose, tu en fais le double, tu vas beaucoup plus loin en fait, c'est ça aimer son prochain. Et donc, si on compare à la lumière du Nouveau Testament, ben, on voit qu'on ne peut absolument pas accomplir la loi et qu'on l'enfreint régulièrement. En tout cas, pas par nos forces. Mais là, on constate que la loi, elle agit comme une sorte de miroir. Hein, et un miroir, ça ne nous aide pas à changer. Hein. Ça fait que, c'est que le reflet de ce que l'on est réellement. Elle révèle, un miroir, ça révèle notre péché et notre incapacité à obéir. Mais ça casse aussi, ça brise notre orgueil. Et ça, ça fait mal. Mais ça ne nous aide pas à être meilleurs. La loi ne nous aide pas à être meilleurs. Elle révèle. C'est ce miroir. Et donc, lorsqu'on lit la loi, on devrait ressentir quelque part un malaise. On devrait ressentir notre échec, notre incapacité. Et je dirais que c'est normal et c'est même voulu par Dieu. Est-ce que vous vous souvenez du titre de la leçon ? Incapacité. Donc, on veut, l'auteur du livre, là, du manuel, veut nous faire arriver à ce constat. T'es incapable. T'y arrives pas tout seul. T'as besoin d'une aide extérieure. Alors, on va rentrer dans le détail. Ces commandements sont-ils toujours valables ? Est-ce que vous pensez que... Parce qu'on a dit qu'ils étaient adaptés, hein, ils ont été donnés à Israël dans un contexte particulier, à une époque particulière. Donc, est-ce qu'ils sont toujours valables, ces 10 commandements ? Question. Oui, on va remplacer « tu ne te prosterneras pas » par des Playmobiles, mais au final, c'est la même chose. Donc, le côté moral persiste. Donc oui, la loi morale reflète le caractère de Dieu, sa volonté parfaite. Donc, on ne va pas la retirer, c'est une loi morale. Là, on n'est pas en train de parler de toutes les lois qui vont venir après, qui sont des lois juridiques pour les aider à vivre en tant que théocratie, hein, et puis après des lois alimentaires pour s'approcher de Dieu également. Donc là, on est dans la loi morale. Vous voyez, c'est bien séparé d'ailleurs. On a les 10 commandements et après on en aura toute une liste qui va arriver plus tard. Mais là, on peut dire que les 10 commandements sont résumés par Jésus en une phrase. Et c'est quoi ? Vous connaissez Matthieu 22 ? De toute ta pensée, de toute ton âme et ton prochain comme toi. Voilà. Donc tu aimeras toute la loi est résumée ici. Et c'est Jésus qui le dit. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Et si vous regardez, les 5 premiers commandements concernent la relation à Dieu. Et les 5 suivants, ou les 6, c'est pas où on s'arrête pour compter, eh bien, ça correspond à l'interaction qu'on a avec les humains. Donc vous voyez, c'est bien séparé. Et Jésus le fait aussi. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Mais voyez la priorité à Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il dira plus tard. Et tout le reste, ça vous est donné. Mais premièrement, la priorité est sur Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui se retrouvent dans nos lois ? Ça, c'est la question 3, la deuxième partie. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des éléments qui se retrouvent dans les lois ? La plupart du temps, oui, il y a dans les sociétés occidentales, en tout cas, elles ont intégré ces lois. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, honorer son père et sa mère, même ne pas commettre d'adultère. Et moi, je me suis amusé, j'ai demandé à une IA de savoir quelles étaient les lois qui faisaient un écho aux 10 commandements. Mais quasiment toutes. Quasiment toutes, je vous les ai mises ici. Même dans la partie, alors c'est très restreint, hein, parce que vous voyez, ça prend la moitié des commandements, la relation à Dieu, et dans la loi aujourd'hui, on a enlevé Dieu en fait. Il y a un élément qui revient, c'est le blasphème. Et encore, c'est même pas vis-à-vis de Dieu, c'est vis-à-vis des humains qui auraient d'autres convictions, d'accord ? Et ils appellent ça le blasphème. C'est l'article 261. Donc c'est quand on commence à avoir un discours de haine vis-à-vis d'une autre religion ou d'un dieu. Mais vous voyez, c'est même pas aussi clair. Et le seul élément qui revient, c'est le dimanche. Alors, c'est le jour du Shabbat, le sabbat. Et donc là, il y a une loi fédérale qui protège le dimanche en Suisse. Alors, il y a des exceptions, mais quand même, on voit que ça, c'est une influence de la Bible, claire. D'autres lois qui sont honorées, alors vous voyez, on commence au cinquième, hein, parce que les deux autres, sur l'adoration, on va dire que c'est plutôt l'inverse, on nous y encourage. Aujourd'hui, les publicités ne sont que des éléments pour que l'on convoite. Donc, on nous encourage à la convoitise. Mais le fait d'honorer son père et sa mère, eh bien, regardez, il y a quand même des articles de loi qui nous obligent à avoir assistance. Il y a une autorité parentale, ce n'est pas les enfants qui représentent l'autorité, mais bien les parents. Et il y a obligation de donner aussi une pension alimentaire vis-à-vis de ses parents s'ils étaient amenés à ne plus pouvoir pourvoir leurs propres besoins. Ça, c'est quand ils vieillissent, hein. C'est pas quand on est bébé. On est d'accord. Sixième commandement, tu ne tueras point. Eh bien là, c'est assez évident, mais on l'a un petit peu de partout, hein. Donc, article 11, ça c'est la peine de prison à perpétuité pour les homicides intentionnels. Hein, on choisit de tuer précisément une personne. Le meurtre, donc là c'est minimum 10 ans, donc on commet un meurtre. Et l'homicide par négligence, donc là bien sûr les conséquences sont moindres, mais quand même, tout ça c'est reconnu dans la loi. Donc, tu ne tueras point, c'est directement influencer. Le septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Alors, ce n'est pas directement l'adultère, mais quand même, la bigamie est interdite et punie par loi. Ou polygamie, hein. Bi, c'est deux, donc avoir deux partenaires, deux époux, deux épouses, ce qui est autorisé dans certaines cultures, bah, pas en Suisse, c'est puni par la loi. Ensuite, la protection du mariage, quand même, le Code civil protège l'institution du mariage. Il y a un devoir de fidélité. C'est écrit dans l'article 159. Divorce pour adultère, ça reste un motif de divorce. Article 114. Donc, même la loi protège encore, même si l'adultère, ce n'est plus un délit pénal. Depuis 1989, ça a été dépénalisé. Le huitième commandement, tu ne déroberas point. Alors là, on voit qu'il y a des biens matériels en Suisse, hein, parce que c'est là où il y a le plus de lois. Le vol, article 139, 5 ans d'emprisonnement, une grosse amende. Le vol qualifié, article 139 aussi, mais là c'est l'alinéa 3. Là c'est les vols des métiers, bandes, armes, etc. Et là ça va jusqu'à 10 ans. Le brigandage, ça c'est 6 ans minimum, l'article 140. L'escroquerie, 146. L'abus de confiance. Et enfin la protection de la propriété privée. Et là c'est un article de la Constitution fédérale. Donc vous voyez, on protège ses biens en Suisse parce qu'on a des biens. Ça, c'est vraiment caractéristique. Et ça nous vient du huitième commandement. Le neuvième, tu ne porteras point de faux témoignages. Et oui, il y a aussi une protection par rapport à ça. Fausses accusations, diffamation, calomnie et obligation de dire la vérité devant les tribunaux sous serment. Donc là, on voit quand même que ça vient ici. Attention, tu rigoles pas avec tes paroles. Tu dois dire la vérité, c'est important. C'est ce qui fonde en fait une société, hein. Si on vit dans le mensonge, c'est la corruption qui s'installe à coup sûr. Donc si on résume, les commandements qui sont relatifs aux relations humaines, eh bien ça reste largement dans le droit suisse. Alors que les commandements qui sont relatifs à Dieu, donc les quatre premiers, eh bien, ont presque été entièrement évacués du système juridique moderne. Et ça reflète quoi ? Ben, la sécularisation de la société. On a gardé les principes, mais on a enlevé la quintessence, en fait. On a enlevé Dieu. Et donc, ça donne des principes qui ne sont pas mauvais à la base, le capitalisme, on va dire. Mais quand on évacue Dieu du capitalisme, eh ben, on arrive à tous les abus que l'on trouve dans le capitalisme. Et donc, ça fait quelque chose de pas joli, en fait. Parce qu'on va exploiter les pauvres alors qu'on devrait prendre soin d'eux. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont été abandonnés dans nos sociétés ? Ben oui. Le premier commandement, je pense que tu n'auras pas d'autre Dieu. Hein, aujourd'hui, c'est le pluralisme religieux. On considère que toutes les religions sont équivalentes, hein, même quand il n'y a pas de Dieu. Hein, les philosophies, tout ce que vous voulez, tout est mélangé. Et donc, on a évacué Dieu de l'espace public. D'ailleurs, si nous, on voulait faire une manifestation, on nous dirait non aujourd'hui. Parce qu'il y a Dieu derrière, vous voyez. La sécularisation, ça va loin. Deuxième commandement, pas d'idole. Alors, c'est quoi nos idoles modernes ? Mammon, hein, je crois que c'est assez facile à discerner ici, en tout cas à Genève. L'argent, la célébrité, hein, qui ne se prend pas en selfie, n'est-ce pas ? On veut être des stars aujourd'hui. Le pouvoir, le plaisir, et tout ça, c'est des formes d'idoles. Mais bien sûr, on ne les reconnaît pas comme des idoles, mais c'est la réalité. On met beaucoup d'argent parce qu'on attache beaucoup d'importance, donc vous voyez, c'est de la valeur à notre corps, à nos loisirs, à nos vacances. Ça, c'est des formes d'idoles, véritablement. Alors ça peut être votre maison, ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Tout peut devenir une idole dans la vie. Il n'y a pas de limite. Troisième commandement sur l'adultère, hein, la fidélité conjugale, c'est devenu optionnel. Et même, je lisais certains articles où on encourage même la fidélité pour remettre du peps dans votre couple. Ah oui, là, les spécialistes disent ne faites pas ça. Même les non-chrétiens spécialistes ne disent pas. Bien sûr, vous allez trouver ce genre de choses. Ben non, ça crée beaucoup plus de dégâts que ça va solutionner votre problème. Il vient d'ailleurs. Dixième commandement sur la convoitise. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la pub, en fait, elle ne fait que nous activer quelque chose qui est déjà en nous. Et donc, elle va stimuler intentionnellement le péché de convoitise qui est en nous. Quand vous regardez quelque chose aujourd'hui, ça vous donne envie de l'acheter, n'est-ce pas ? C'est ce qui se passe en vous. Et notre cerveau est fait d'une telle manière, et là c'est un autre débat, mais j'ai lu ça récemment. Ils ont fait des tests sur un singe, et c'est pour vous montrer la convoitise, comment ça marche. Ils ont mis des électrodes sur son cerveau et lui ont passé le film d'un singe qui mangeait une banane. Et ils ont regardé toutes les cellules qui s'activaient au niveau de son cerveau. Ensuite, ils ont donné au singe, donc ils ont laissé les mêmes électrodes et lui ont donné une singe. Et quand le singe épluche sa banane, ça active exactement les mêmes cellules du cerveau que ce qu'il a vu à la télé. Et ensuite, quand il voyait le singe manger la banane, eh bien, il avait, et quand lui, il a mangé la banane, c'était exactement les mêmes endroits du cerveau qui étaient activés. Ce qui veut dire que quand on vous montre quelque chose à la télé et que ça vous fait envie, quelque part, vous l'avez déjà consommé. Et il n'y a pas grand-chose à faire, finalement, pour que vous passiez soit à l'achat, soit à aller dans une pratique, parce que, quelque part, vous l'avez déjà expérimenté. Je ne vous fais pas de film, mais la pornographie, les amis, c'est exactement ça. C'est que quand vous regardez le film, vous faites l'action avec la personne. Et c'est pour ça que Jésus avait de l'avance sur nous. 2000 ans avant, il avait dit, si tu regardes une femme avec convoitise, tu as déjà commis adultère. Mais aujourd'hui, on le sait par la science. Oui, c'est extraordinaire. Pas le péché, hein, attention. Mais Jésus est incroyable. Alors pourquoi cet abandon ? Sécularisation, c'est-à-dire que c'est rejet de l'autorité divine au profit de l'autonomie humaine. Et vous voyez, on l'a vu dès le départ, la deuxième session, indépendance. Et donc ça vient de là. On veut définir nous-mêmes les règles. Le relativisme moral, il y a ta vérité et j'ai ma vérité. Chacun a sa vérité. Voilà, les amis, avec ça, on ne va pas aller loin. Hein. D'ailleurs, on est en train d'aller direct dans le mur. Mais ça, c'est la réalité aujourd'hui, le relativisme. Et bien sûr, l'individualisme, je fais ce que je veux tant que je ne nuis pas aux autres. Et là, on n'a pris qu'un petit bout de l'évangile, hein, parce qu'il nous dit de ne pas faire aux autres ou de faire aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même. Et là, c'est je fais ce que je veux tant que je ne nuis pas aux autres. Vous voyez, c'est assez limité quand même. Donc, on est le centre et donc on va rejeter tous les devoirs qu'on a vis-à-vis de Dieu et de notre prochain. Et bien sûr, le matérialisme. Donc, seul compte ce qui est visible et mesurable. En fait, c'est comme si un architecte avait fait les plans d'une maison. Hein, il a construit la maison. Et puis nous, on regarde la maison, on dit, mais il n'y a pas assez de place. Je vais faire sauter ce mur. Et on enlève un mur porteur. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? La baraque, elle tient au début. Hein, et puis, le moindre glissement de terrain ou le moins, et ben, pof, tout va s'effondrer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Notre civilisation est en train de s'effondrer parce qu'on a enlevé le mur porteur. Et voilà, ça c'est la réalité dans laquelle on est. C'était la dernière question. Alors je vais conclure. Ici, lorsqu'on arrive à cette session, les gens doivent ressentir une forme de malaise parce qu'en fait, ils réalisent qu'ils sont pas à la hauteur. On voit qu'on est dans une société qui a complètement évacué Dieu, en fait. Pas forcément les commandements liés à la moralité chrétienne ou judéo-chrétienne, en tout cas, mais on a évacué Dieu de l'équation. Et on voit que ça devient catastrophique. On a enlevé le mur porteur. C'est ce qui portait tout, en fait. C'est parce qu'on a une relation à Dieu, parce qu'il nous a délivrés, parce qu'il nous a rachetés. Donc il est ce libérateur qu'il nous donne ses commandements. Du coup, lorsqu'on lit la loi, on est face à un miroir, et si on est vraiment honnête, on dit ben, « non, j'y arrive pas ». Ça, c'est si on est... Donc, du coup, on ressent notre incapacité, et finalement, c'est le but. Donc là, je suis désolé de vous dire ça, mais il faut résister à l'envie de donner la solution et de parler de Jésus, parce que c'est justement l'objectif de la leçon, ressentir notre incapacité. Là, on l'a, heureusement qu'on l'a fait pendant le culte, on a chanté Jésus, on a parlé de la grâce, on a parlé de qui était, de ce qu'il avait fait. Bon, on a quasiment décrit tout l'évangile dans les chants. Donc je ne vais pas le faire maintenant, mais si j'étais un bon prédicateur, je devrais y mettre Jésus ici, vous voyez. Mais ce n'est pas le but de la leçon. Le but de la leçon, c'est qu'on se sente mal quelque part et qu'on ressente cette douleur de notre échec quelque part. Je ne suis pas capable. Cette loi, elle est bien, elle est super la loi, sauf que je ne suis pas capable de la mettre en pratique, moi. Si on n'arrive pas à cette conclusion, c'est qu'il y a une dimension qu'on n'a pas saisie, en fait. Donc, il y a un malaise qui va s'installer quand vous allez faire cette leçon avec les gens. Et donc, il faut le laisser, ce malaise. Il est normal. On doit ressentir notre incapacité devant la loi de Dieu. Parce que c'est le but. Il nous l'a donné, non seulement pour nous aider, pour refléter la volonté parfaite, mais pour nous montrer qu'on n'était pas capable d'y arriver tout seul. C'est le constat auquel on doit arriver.